Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut marcher.
Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous le futur, ici Claude Saint-Georges. Ce matin, j'ai le plaisir d'avoir en entrevue M. Yves-Marie Abraham, qui est auteur et professeur au HEC à Montréal. C'est un spécialiste du thème de la décroissance. Bonjour, M. Abraham.
Bonjour.
Alors, je vous remercie beaucoup d'être ici. Vous allez bien?
Ça va pas mal, oui.
Bon, tant mieux. Vous êtes l'auteur de « Guérir du mal de l'infini ». Qui en sous-titre « Produire moins, partager plus, c'est décider ensemble ». Et aussi, vous avez écrit « Jusqu'où croître », c'est un livre collectif, je crois, là, sur les limites de l'extractivisme. Et j'ai lu un chapitre de vous dans « Objecteur de croissance ». Alors, je sais que vous enseignez la décroissance, mais vous m'avez dit que, comme première question, là, vous référez à Jacques Généreux des fois. Moi, je le connais, j'ai lu ses livres. Pas tous, je le trouve intéressant, mais en quoi vous inspirez de lui? Parce que je me sens qu'il ne parle pas de décroissance.
Oui, alors c'est... Comment parler sans avoir parlé de décroissance d'abord. Donc Jacques Généreux, ce que j'ai retenu moi de lui, je connais surtout son travail sur ce qu'il appelle la dissociété. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que, même si ce ne sont pas ses mots à lui, c'est que les sociétés de croissance, dans nos sociétés, on peut les appeler des sociétés de croissance, c'est des sociétés qui ont besoin pour finalement se perpétuer de générer de la croissance économique. Mmh. Et on pourrait dire donc que ces sociétés de croissance sont tendanciellement des dissociétés, en fait. C'est-à-dire qu'une des conditions de possibilité de la croissance économique, c'est la dissociété. C'est-à-dire le fait qu'on ait de plus en plus de mal à faire société parce que finalement on est de plus en plus dissociés les uns des autres, éloignés des uns des autres, notamment à cause d'une espèce de mise en concurrence généralisée qui nous est imposée et qui nous force finalement à nous comporter toujours plus de manière individualiste et égoïste, en fait. Ça, c'est un point majeur pour moi parce que une des objections qu'on fait souvent à la décroissance, c'est de dire mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec une bande d'égoïstes et d'individualistes que nous sommes, on n'a rien à faire, on est foutus. Alors là, Généreux est extrêmement convaincant parce que justement, en plus, il est économiste au départ et contrairement à ses collègues économistes, il va essayer de montrer que si on se comporte de manière individualiste et égoïste, c'est un effet finalement du système capitaliste dans lequel on est plutôt que sa cause. C'est tout l'inverse. Donc, c'est là où moi il me paraît très utile. C'est pour ça que je le fais lire à mes étudiants. C'est aussi que pour mes étudiants, c'est une bonne façon de savoir qu'il y a aussi des économistes de gauche. Tous les économistes ne sont pas à droite. La majorité sont à droite, mais il y en a quand même aussi à gauche qui peuvent dire des choses complètement contradictoires avec le discours dominant dans les cours d'économie.
D'accord. Il y avait un chapitre de lui là. Ça s'appelait une question oubliée. La résilience du pire. Ça m'a fait rire parce que la plupart du temps, on entend parler de la résilience du mieux. Là. Fait que, comme première question profonde avec vous, c'est qu'est-ce que la croissance soutenable? La décroissance.
La décroissance. Ouais. Votre lapsus est révélateur. qu'est-ce que la décroissance? C'est une proposition politique, je dirais. Ça, c'est très important. Donc, proposition politique qui consiste à appeler à cesser la croissance. Alors, quand je parle de croissance, c'est la croissance économique que je vise. Mm-hmm. C'est pas la croissance de tout le reste. Je suis pour la croissance de l'amour et de la solidarité. Il y a aucun problème. Mm-hmm. Ce que nous critiquons, c'est la croissance économique. Et alors, pas pour faire de la décroissance une espèce d'objectif en soi, ça serait à peu près aussi ridicule de promouvoir une décroissance à l'infini que de promouvoir une croissance infinie. Donc il s'agit plutôt de rompre en fait avec une espèce de trajectoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui à une échelle qui est mondialisée, pour essayer ensuite de bâtir des sociétés qui soient alors plus soutenables sur le plan écologique, plus justes sur le plan social et aussi plus démocratiques sur le plan politique. En gros, c'est nos trois grandes valeurs fondamentales, soutenabilité écologique, justice sociale et démocratie réelle, parce que bon, aujourd'hui nos institutions n'ont de démocratique que le nom ou presque, donc mais ça c'est voilà l'objectif. Et puis j'ai commencé en disant que c'était une proposition politique pour bien prendre des distances avec certaines interprétations de l'idée de décroissance qui sont plutôt moralisantes, c'est-à-dire vous lancez le mot décroissance dans la conversation et bien souvent les gens réagissent en disant ah là ben moi c'est ça, je trie bien mes déchets, ou je prends plus l'avion, enfin bon, donc en fait tout de suite on situe le problème à une échelle individuelle, alors que pour nous donc objecteurs de croissance, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous, pour nous le problème il est politique, c'est-à-dire qu'il touche à l'organisation de la société. À une échelle individuelle, en gros, on peut pas faire grand-chose de pertinent pour régler les problèmes écologiques et sociaux, même politiques, que je viens d'évoquer. Ça suppose une transformation de la société. C'est à ce niveau-là qu'on se situe. Dernier point que j'ajouterais pour finir de définir l'idée de décroissance, donc, enfin, j'en ajouterais deux points. Il s'agit donc évidemment d'une rupture volontaire, donc on n'est pas du tout sur le schéma classique de la récession. La récession économique, c'est un moment où on subit en fait une décroissance forcée qui est complètement involontaire et qui, dans nos sociétés telles qu'elles fonctionnent, va effectivement faire des dégâts. Donc il s'agit bien donc de sortir de cette trajectoire volontairement. Et pour bâtir, j'ai dit des sociétés. Alors, j'ai utilisé le pluriel, c'est aussi très important parce que il s'agit pas d'arriver avec un modèle qui vaudrait pour toute l'humanité, pour toujours et en tout lieu. Quoi. En fait, il s'agit beaucoup plus de régénérer, au contraire, une forme de sociodiversité qui est mise à mal en fait par les sociétés de croissance, par la mondialisation actuelle. Donc l'enjeu, c'est qu'il y ait diversité dans les manières de vivre ensemble que nous inventons. Voilà pour une première réponse générale à l'idée de décroissance. D'accord. À votre question.
OK, merci. Les pays du Sud pauvres, eux, ils peuvent croître sans problème, là. Ben, à condition que ça se fasse bien.
Alors, c'est une question essentielle mais qui est un peu compliquée parce qu'en même temps, il faut commencer par essayer de comprendre pourquoi ces pays sont pauvres. Et la thèse que nous défendons le plus souvent dans la décroissance, c'est que précisément leur pauvreté, leur sous-développement est une condition de notre richesse et de notre développement, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont déjà des pays qui sont embarqués dans cette dynamique des sociétés de croissance, mais ils sont du mauvais côté du bâton, si vous me passez l'expression.
Oui.
Donc, alors, on pourrait tout à fait imaginer une espèce de croissance économique dans ces pays-là, mais ça supposerait en fait que ces pays puissent exploiter des pays dans leur périphérie. Alors ça pourrait être nous, les pays du Nord. Je suis pas sûr en même temps qu'on puisse en faire vraiment une proposition politique générale. Je suis pas sûr que ça séduirait tout le monde. Donc en fait, c'est très important, je crois, de reconnaître que ces pays sont déjà embarqués dans cette dynamique, mais qu'ils sont du côté des perdants de la course. Voilà. Mais si on veut que eux ils gagnent, il va falloir que on accepte nous de se retrouver en situation d'être à notre tour en quelque sorte exploité. Hein, ce qu'on continue à faire avec les pays du Sud, même s'il y a plus de s'ils ont acquis leur indépendance politique. Donc je dirais que même pour les pays du Sud, on peut pas faire de la croissance vraiment un projet défendable à mon avis. Ce qu'on peut faire comme projet, c'est le premier pour nous qui sommes au Nord, c'est déjà de leur garantir une véritable autonomie, ce qu'ils n'ont pas. Ça, ce serait un mouvement, ce serait un vrai mouvement positif, permettre à ces pays, en fait, à ces pays de qui on parle, en fait, permettre aux populations de ces pays de conquérir une véritable autonomie, notamment par rapport à nous, et les aider ensuite à pouvoir profiter effectivement de cette autonomie, parce qu'on ne va pas les laisser non plus tomber comme ça, comme on laisse tomber des vieilles affaires. Donc voilà, donc autonomie et solidarité internationale, ça me paraît très 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 nécessaire. Par contre, soutenir une croissance économique dans ces pays-là, je pense que ça c'est pas une meilleure idée pour eux que pour nous.
D'accord. Votre idée, c'est partager plus, je pense aussi, non?
Oui.
Alors, pourquoi refuser la croissance économique?
Oui. Alors, c'est la question là, peut-être la plus importante pour essayer de comprendre notre affaire. Pourquoi est-ce qu'on lance cet appel à rompre la course à la croissance, comme je l'appelle, pour trois raisons. La première raison, elle est d'ordre écologique, donc c'est celle qui vient tout de suite à l'esprit, hein, tout simplement parce qu'on constate que quand on génère de la croissance économique, mesurée entre autres par le fameux PIB, le produit intérieur brut, quand on génère de la croissance sur un territoire donné, on constate que cette croissance économique, elle se traduit en fait toujours par des destructions sur le plan écologique. Nous n'avons jamais été capables de générer une croissance verte ou propre, contrairement à ce que continuent à nous promettre des politiques ou des économistes, etc. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais fait. Donc aujourd'hui, si on relance la croissance, on accélère la destruction. Donc il y a un lien très étroit entre croissance économique et destruction écologique. Bon, puis là, on arrive à des niveaux de destruction, de perturbations écologiques qui sont quand même de plus en plus inquiétants. C'est-à-dire que c'est même l'habitabilité de la Terre qui commence à être menacée, quoi. Puis même nous qui sommes très privilégiés dans les pays du Nord, on commence à en voir les effets, qui reviennent vers nous comme un boomerang. Bon. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, même si on était capable de commencer à générer quelque chose comme une croissance propre ou moins sale, et donc de faire durer encore le truc un moment, quand on regarde finalement les résultats de cette course à la croissance, on se rend compte que ces résultats sont très injustes. Ils sont très injustes parce qu'on connaît d'avance en fait qui va gagner et qui va perdre. C'est pas une course ouverte du tout. Elle est pas du tout égalitaire. En gros, les gagnants de cette course à la croissance, si on en fait un portrait robot, je l'incarne un peu. C'est un homme blanc de la cinquantaine qui vit dans une métropole occidentale et qui gagne plus de 100 000 dollars par an, quoi. Donc c'est à peu près ça. Et le perdant, c'est plutôt une femme, en général de couleur, femme noire, typiquement d'un pays africain, vivant sans doute soit dans un village, une petite ville, ou dans un bidonville d'une grande ville africaine. Donc, et pourquoi? Parce qu'en fait, derrière cette course à la croissance, on va mettre en évidence trois types de rapports d'exploitation assez caractéristiques. Le premier, c'est justement un rapport d'exploitation du Sud par le Nord. Donc, en général, les perdants sont au Sud parce qu'on arrive finalement à engager des échanges économiques et écologiques avec ces pays qui sont très inégaux. On retire, nous, au Nord, davantage que finalement on leur en donne au Sud. Hein, à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan écologique, ça c'est essentiel. C'est un concept qui prend de l'ampleur actuellement et qui est tout à fait important. Donc premier rapport, rapport Nord-Sud, rapport d'exploitation. Deuxième rapport, pourquoi c'est une femme? Parce que dans le portrait robot du perdant de l'affaire, c'est une femme, parce que ce système de la croissance, il fonctionne aussi sur la base de ce qu'on appelle un travail de reproduction, c'est-à-dire le fait de donner la vie, d'élever des enfants, de les nourrir, de leur donner de l'affection, du soin, et puis de faire la même chose avec ensuite des adultes. Tout un travail absolument essentiel à toute société humaine. Dans nos sociétés, ce travail, il est très peu considéré, il est même en fait invisibilisé, et ce qui fait qu'il est non payé ou très mal payé en fait. Donc on a un système qui fonctionne sur un énorme travail essentiel, qui est un travail gratuit en fait. Si ce travail devait être payé, cette course à la croissance, elle s'arrêterait probablement, parce que les profits qui sont aujourd'hui retirés de cette course, finalement, ils diminueraient comme neige au soleil s'il fallait payer tout ce travail-là. D'accord. Donc, et pour l'instant, c'est les femmes qui, dans une grande majorité, assument ce travail. D'accord. Et puis le troisième rapport d'exploitation qui rend cette course injuste et qui fait que, en gros, on sait qui va gagner, qui va perdre, c'est le rapport salarial. C'est le fait que vous avez encore dans nos sociétés deux grandes catégories de population, celle qui a le contrôle des moyens de production, celle qui a le contrôle du capital, puis celle qui n'a que sa force de travail à vendre. Et là aussi, il y a un échange qui est très inégal et qui se traduit par le fait qu'en gros, quelqu'un comme Piketty l'a montré magistralement, en gros, ceux qui ont le capital vont tirer bien davantage de profit de cette course que ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Alors ça, c'est un peu long à expliquer, mais c'est la deuxième raison pour laquelle refuser cette course à la croissance. Elle est donc insoutenable et elle est injuste. Et la troisième raison, qui est peut-être la plus originale, et qui caractérise un peu, à mon avis, la perspective des croissancistes, c'est que cette course à la croissance, après, quelle que soit la position qu'on occupe dans la course, y compris si on est plutôt du côté des gagnants, elle est aussi quelque chose de profondément aliénant. C'est-à-dire que elle nous transforme en quelque sorte, jour après jour, en espèce de rouage de cette course-là. C'est-à-dire, alors on le sent confusément quand on est complètement épuisé par une job où on nous demande d'être toujours plus productif, d'être toujours plus rentable, toujours plus profitable, et ça finit par se traduire par un burn-out. Alors c'est ça l'aliénation. C'est une croissance économique qu'on nous vend comme un moyen finalement d'améliorer notre bien-être. Et finalement, on se retrouve dans une position inversée où on travaille pour cette croissance, hein, qui devrait être un moyen. Ça devient une fin. Et nous devenons les moyens finalement de cette croissance. Alors, ça vaut avec dans le domaine économique, mais ça vaut aussi sur le plan technique. On dépend de plus en plus de techniques très sophistiquées qui supposent des grands systèmes techniques comme un système de transport, un système de distribution d'énergie, un système d'information. Ces grands systèmes, c'est pareil, sont finalement très puissants, mais ils ont tendance aussi à se retourner contre nous et à être très 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 contraignants pour nous. Exemple caricatural. Si aujourd'hui on veut faire fonctionner nos bagnoles, il va falloir dépenser collectivement de plus en plus d'argent pour continuer à élargir notre système de transport. Ça donne une folie comme le projet de troisième lien, par exemple, à Québec. Donc, ce serait donc cette espèce de perte de sens en fait imposée par la course à la croissance qui justifierait aussi cette critique que nous faisons de la croissance. Voilà, en résumé, les trois critiques fondamentales.
D'accord, merci. Comme image peut-être de perte de sens, c'est quand un ouragan frappe, les dépenses en reconstruction font croître le PIB. Et nous, on va aller en publicité, là. Et on revient. Alors, rebonjour, ici Claude Saint-Jarre et nous sommes à l'émission À nous le futur. Nous avons la chance d'être avec Yves-Marie Abraham, auteur du livre Guérir du mal de l'infini. Monsieur Abraham, comme prochaine question, comment concevoir des sociétés post-croissance et j'imagine prospères, là?
Oui, alors c'est ça, et ça suppose déjà de définir la prospérité autrement qu'on le fait aujourd'hui, puisque on associe justement prospérité et croissance économique dans nos sociétés. Mais quand on regarde l'étymologie même du mot prospère, si je dis pas de bêtises, je pense que prospère, ça renvoie à l'idée que d'un monde qui serait conforme à nos attentes. Hein. Donc, alors en fait, il faut définir nos attentes et il faut les définir donc autrement qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est-à-dire, on pourrait concevoir une conception du bonheur qui soit tout autre. Alors c'est ce qu'on tente de faire avec nos trois valeurs fondamentales, la soutenabilité, la justice et la démocratie. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est évidemment la grande question, parce que aujourd'hui ces sociétés de croissance, elles sont partout. Il y a peu d'endroits dans le monde où il y a des humains qui vivent en dehors des sociétés de croissance. Donc on a un modèle qui est mondialisé. Donc c'est évidemment pas simple d'imaginer en sortir. Donc ce que je propose dans mon bouquin que vous avez signalé là, je propose donc une espèce de feuille de route minimale. Pour réfléchir aux différents projets qu'on pourrait mettre en œuvre. Je pense que ces projets, il faut qu'ils respectent trois principes. Il faut qu'on tente de produire moins que ce qu'on produit aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, pour des raisons écologiques que j'évoquais tout à l'heure. Il ne s'agit pas seulement de produire mieux, de produire différemment. Ça, c'est ce qu'on nous propose depuis bien longtemps, mais on voit que ça marche pas. Donc, la seule solution, si on veut arrêter la catastrophe écologique, c'est de produire moins. Ça, c'est le premier principe. On devrait se donner ça comme objectif. Si on produit moins, bon, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ont déjà pas assez pour vivre aujourd'hui? Ça va être indéfendable de leur demander de faire des efforts supplémentaires. Et puis, de toute façon, on peut imaginer que ces humains qui ont déjà pas de quoi vivre correctement vont pas mourir tout tranquillement dans leur coin sans rien dire. Donc il va falloir, dans un deuxième principe, il va falloir partager beaucoup plus ce dont nous avons besoin pour vivre. Et ce que je voudrais signaler, c'est qu'en fait, on a, quand on essaye d'estimer les richesses que nous avons aujourd'hui sur la planète, les richesses au sens le plus large du terme, richesses naturelles et autres, Et quand on regarde les besoins qu'il s'agirait de satisfaire pour des vies décentes, on a largement de quoi faire. On a vraiment de la marge. On n'est pas dans une situation catastrophique. Ça dit bien d'ailleurs l'inefficacité de notre système, hein, qui est un système extrêmement puissant, mais qui n'est pas capable de nourrir correctement une grande partie de l'humanité encore aujourd'hui, par exemple. Mmh. Donc, on produit moins. On partage plus, avec des implications qui vont être désagréables pour les plus riches d'entre nous, parce que ça veut dire mettre des limites à l'accumulation de richesses, à titre individuel notamment, ou même à titre collectif. Donc mettre des limites, ça veut dire quoi ? Ça veut dire commencer à imposer, par exemple, je sais pas, des limites de revenus, des niveaux de taxation d'imposition beaucoup plus élevés que ceux qu'on connaît, par exemple. Donc voilà le genre de, ou même interdire un certain nombre de pratiques. Donc ça fait partie de ces des implications du deuxième principe partager plus. Et le troisième principe que je mets de l'avant et qui vient avec les deux autres, on est qu'il faut tenir absolument avec les deux autres. Les trois ensemble sont essentiels. C'est décider ensemble justement des limites qu'on va se donner en termes de production et décider ensemble de la manière dont on va partager ce dont nous avons besoin pour vivre. Donc en fait, ça c'est une espèce de principe démocratique radical quoi, qu'il faudrait réaliser. Ça suppose, là aussi, ça suppose des changements importants, puisque si on prend un peu les fondements de la démocratie, force est de constater que nos institutions politiques elles sont pas vraiment conformes à l'idéal démocratique. Oui. On n'a pas des institutions qui permettent un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Non, on est gouverné par une oligarchie, même au Québec, qui est un pays pas trop égalitaire, ça reste quand même une petite élite qui gouverne. Et sur laquelle on a relativement peu de contrôle. Mais ça ne suffira pas de démocratiser nos institutions politiques. Il va falloir aussi que, justement, on arrive à sortir de ces grands systèmes techniques que j'évoquais tout à l'heure, systèmes économiques, mais aussi des systèmes comme système électrique, système de santé, qui sont d'énormes systèmes, très coûteux, très, et en même temps très fragiles. Il faut sortir de tout ça pour reprendre le contrôle de nos vies. Donc s'inventer, en fait, un monde où on n'est plus soumis à ces grands systèmes pour pouvoir recommencer à décider vraiment de comment on veut vivre. Voilà, en gros, les trois grandes directions, les trois principes.
OK. Oui, un gros travail à faire. Pour inventer justement un nouveau système, est-ce que l'apport de Jérôme Duprat, l'économie écologique, est-ce que d'après vous c'est important? Puis également, Éloi Laurent aussi, je ne sais pas si vous connaissez l'économiste.
Oui. Ben, c'est intéressant d'avoir des économistes qui commencent justement à évoquer ces limites, notamment écologiques. Alors, du côté de l'économie écologique, justement, ça reste. Alors, il y a plusieurs variantes du côté de l'économie écologique. Duprat, je connais pas précisément son travail, mais je sais que lui n'est pas un partisan de la décroissance. Il continue à promouvoir, autant que je sache, alors à moins qu'il ait changé ces derniers temps, mais il continue à promouvoir la possibilité de quelque chose comme un développement durable qui permettrait, donc sans renoncer à la croissance, d'arrêter la catastrophe et en même temps d'avoir une redistribution plus juste des fruits de cette croissance. Mais ça reste que c'est intéressant ce qu'il fait, notamment parce que justement il participe à un courant qui dit ça suffit de faire de l'économie en faisant comme si nos richesses naturelles étaient infinies, en fait, hein, comme s'il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Il y a des limites, écologiques, et il faut en tenir compte quand on fait de l'économie. Donc là c'est déjà essentiel. Ce serait déjà très bien si, par exemple, à HEC, ici, il y avait un cours d'économie écologique. Or, il n'y en a pas. Là, ce sont des gens très, 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 très importants aussi, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout. Éloi Laurent, je connais son travail, mais sans avoir moi-même vraiment lu ça de façon systématique. Même chose, c'est un économiste qui, lui, fait une critique de la croissance, alors pour des raisons qui sont surtout, je crois, écologiques. Donc il n'amène pas les deux autres critiques que j'ai amenées. Mais là aussi, dans la mesure où il s'agit d'un économiste, que c'est des gens qu'on écoute dans nos sociétés plus qu'on écoute les sociologues, oui. C'est très pratique de pouvoir s'appuyer sur eux en disant, regardez, même les économistes en train de nous dire que là on va dans le mur, il faut faire quelque chose. Donc oui, c'est des gens importants et c'est des alliés.
Je lisais dans une organisation qui s'appelle Fresque, ce sont des étudiants en médecine. Il y a 38 organisations d'étudiants en médecine. Et puis ils ont inventé un terme, je crois, peut-être pas eux, mais en tout cas l'éco-paralysie. c'est croire qu'on n'est pas capable de changer le monde. Et puis, ils vont même jusqu'à dire l'éco-paralysie gouvernementale. Alors, on a un gouvernement qui ne croit pas qu'on est capable de faire un changement. On a beaucoup de travail à faire, de créativité, de ça prend de la confiance.
Ouais, ben, je dirais pas qu'il croit pas que ce soit possible. Le gouvernement Legault, lui, il veut vraiment pas changer. C'est-à-dire qu'il veut que ce monde-là continue. Et il veut se convaincre que ce monde peut continuer, en fait. Donc là, sur ces questions-là, il y a conflit, en fait. Il y a conflit politique, il y a conflit idéologique. Donc, clairement, on a un gouvernement, là, qui ne veut surtout pas remettre en question ce monde-là. Là, c'est à nous de trouver des arguments, des moyens de gagner du terrain contre ce genre d'idée. Mais c'est sûr que c'est très difficile. Et puis, comme vous le disiez, je connaissais pas la notion d'éco-paralysie, c'est intéressant. C'est sûr qu'avec la quantité d'informations, de mauvaises nouvelles qu'on reçoit chaque jour sur la dimension écologique notamment, il y a de quoi être tétanisé. Quand on voit en plus l'ampleur du désastre, il y a de quoi être tétanisé. Alors, comme dit Frédéric Lordon en France, il faut arrêter d'être éco-anxieux, il faudrait plutôt être éco-furieux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, il faut s'attaquer à ce monde, en fait. Il faut faire de la politique. S'il y a quelque chose à faire, c'est faire de la politique. Alors, faire de la politique, malheureusement, dans nos têtes, ça se réduit à prendre sa carte dans un parti. Maintenant, faire de la politique, c'est se mêler de l'organisation de la cité. Alors ça, on peut le faire de multiples manières, en passant par un parti, mais aussi, tout simplement, en participant à un collectif dans son quartier, dans son coin de pays, pour essayer de transformer nos manières de vivre ensemble et de le faire ensemble. Ça, c'est ou militer dans un mouvement social, écologiste, féministe, altermondialiste. Il y a beaucoup, beaucoup de manières de faire de la politique, mais c'est la clé. J'en vois pas d'autres. Il faut surtout pas rester tout seul dans son coin à essayer de trier ses déchets de manière plus efficace ou pas faire d'enfants. Bon, là, on est aussi dans une forme d'éco-paralysie qui a, à mon avis, aucun sens. Il faut se mêler de l'organisation de collectifs de nos vies, c'est s'occuper de nos affaires, surtout pas laisser ça à nos dirigeants politiques et à nos dirigeants économiques, qui, pour l'instant, eux, sont bien contents qu'on reste tranquillement chez nous, et ça fait écho à ce que disait Généreux. Hein. Généreux, il a dit société, concrètement, c'est quoi? Chacun rentre chez lui et puis reste dans son petit coin et on fait justement plus de politique. Hein. Et donc, ça, c'est vraiment crucial, je pense. C'est là-dessus qu'il faut se remettre en marche.
D'accord. Mais c'est, comme principe particulier, est-ce que vous voyez une réforme de démocratie précise à faire? Ou ça?
Minimalement, je crois qu'il faut rappeler que s'il y a un principe démocratique par excellence, qui est le plus cohérent qui soit avec l'idéal démocratique, si on a des représentants à désigner, c'est le tirage au sort. Bon, le tirage au sort, c'est le principe le plus cohérent. On va désigner n'importe qui pour nous représenter. Si on est vraiment démocrate, ça, il faut assumer cette idée-là, qui est d'ailleurs en cours dans la désignation des jurys d'assises, par exemple. C'est ce qu'on fait. Et donc ça, il faudrait revenir à ça. En fait, ça c'est le premier principe. Et comme dit Jacques Rancière, donc un des philosophes les plus intéressants sur cette question de la démocratie, il y a une chose qu'il faut faire aussi, c'est éviter de donner le pouvoir à ceux qui veulent l'exercer. Donc déjà se méfier de tous ceux qui veulent exercer le pouvoir, et ensuite assumer l'idée que dans une vraie démocratie, n'importe qui pourrait le faire. Alors ça paraît très fumeux et très utopique, mais quelqu'un comme Macron en France, qui est pas vraiment un très grand démocrate, qui est un oligarque bien classique, il s'est fait un peu prendre au piège il y a quelques années en acceptant de mettre en place la Convention citoyenne sur le climat, qui a été un dispositif assez rigoureusement démocratique dans sa conception, puisque on a désigné, je crois, 150 Français et Françaises par tirage au sort. Donc, qui par conséquent, et on s'est assuré qu'effectivement, ils venaient de tous les horizons politiques, de tous les horizons géographiques, de tous les milieux sociaux. Alors, à peu près tous, à 150, on ne représente pas tout le monde, mais quand même. Donc, en tout cas, une vraie diversité. Et ces 150 Français et Françaises, on leur a demandé de discuter. C'est ça, la démocratie, c'est discuter, c'est débattre. Et ça ne se fait pas derrière des écrans, ça se fait au contact direct, ça me paraît aussi essentiel. Passer un certain nombre de fins de semaine ensemble à discuter, à s'informer sur la question climatique. Malheureusement, ça n'était que la question climatique qui était évoquée. Le problème écologique est bien plus large que la question climatique. Mais sur cette question-là, et on leur a demandé donc de faire des recommandations. Et alors, quand on regarde le résultat, donc des recommandations qui sont sorties de cette consultation, c'est assez remarquable. On a des choses qui sont extrêmement congruentes avec ce que proposent les meilleurs spécialistes de la question climatique et des choses qui sont très radicales, tellement radicales d'ailleurs que Macron a à peu près tout mis au panier en fait. Hein. Il a appliqué une toute petite partie de ses recommandations, contrairement à ce qu'il avait enseigné. Donc ça marche en fait. Oui. Ça marche, la démocratie bien assumée, ça peut être très efficace. Mais il faut l'assumer, parce que Macron, évidemment, n'a pas assumé jusqu'au bout.
D'accord. Mais c'est une bonne idée, je suis d'accord avec le tirage au sort. J'ai lu aussi de Paul Ariès, Désobéir et grandir vers une société de décroissance, où il insiste très souvent sur l'idée du revenu de base ou revenu garanti.
Ouais.
Donc,
ouais.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, ça fait partie des propositions qu'on formule souvent dans le milieu de la décroissance. Pourquoi? Parce que ce serait une façon de se soustraire un peu à la dynamique capitaliste dans laquelle on est, hein, où finalement notre revenu il est très largement en fonction de notre capacité à produire et à vendre des marchandises pour faire accumuler du capital. Donc ça le revenu de base inconditionnel, ça, c'est une façon de sortir de cette logique-là. Mmh. On peut pas vraiment le penser sur le long terme. Pour moi, ce serait forcément un dispositif qui serait temporaire, parce qu'il faut trouver le moyen de le financer. Donc en fait, le but, c'est que ça soit une façon de sortir des sociétés de croissance, de donner à ceux qui en bénéficient les moyens de commencer à s'inventer d'autres manières de vivre. C'est ce qui nous manque aussi sous le capitalisme, c'est le temps. C'est la première chose qui nous manque, le temps et l'énergie. Après une journée de travail à produire des marchandises ou à vendre des marchandises, en général, on n'a plus vraiment, on n'a plus de temps et plus d'énergie. Le revenu de base, c'est ça que ça pourrait offrir. C'est d'ailleurs ce que la PCU a offert à un certain nombre de Canadiens et Canadiennes. Je pense qu'on va voir dans les années qui viennent, on va voir les effets positifs de la PCU à une échelle macro-sociale. Je serais pas étonné qu'on voit des choses très très positives.
Okay.
J'ai vu autour de moi des gens vraiment changer de vie à la faveur de cette PCU. Voilà, donc ça fait partie de ce qu'on appelle les réformes révolutionnaires qu'on défend dans le milieu de la décroissance. C'est très très cohérent. Comme une autre réforme qui serait une réduction très significative du temps de travail, par exemple.
D'accord.
Donc ça irait dans le bon sens, et notamment dans le sens du produire moins.
Mm-hmm. Et puis j'ai vu un livre aussi de chez Éco-Société, aux origines de la décroissance, 50 penseurs. Est-ce que vous avez un penseur ou une penseur préférée, disons, dans les prophètes de la décroissance?
c'est pas facile, votre question, parce que dans les 50, là, il y a 50 personnes sacrément intéressantes. Qu'est-ce que je mettrais de l'avant? Je suis assez proche de collègues qui sont frétagiens. J'avoue que plus ça va, plus je pense que Michel Frétag, grand sociologue québécois d'origine suisse, mais qui a fait toute sa carrière au Québec. Okay. Je pense que là, on a quelqu'un qui, alors malheureusement dans une langue très compliquée, mais qui a pas mal posé les fondements là de toute notre analyse, toute notre critique et toutes nos propositions aussi post-croissance. Donc ce serait quelqu'un qui est mal connu malheureusement et qui mériterait de l'être davantage.
Ok. Eh bien, on va terminer l'interview avec ça. Je vous remercie beaucoup. Nous étions avec Yves-Marie Abraham, et professeur au HEC, surtout en décroissance. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir invité.
Ça fait plaisir. On nous sommes enrichis. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
À la prochaine.
À la prochaine. Et maintenant, nous allons entendre de Robert Robert, La nuit se plaindre.
Le silence complet dans l'auto, les avions qui décollent. La route qui défile, tu nous achetes dans ton studio, qui est aussi ton salon, perdu dans les fichiers audio. Pas besoin de temps.
comment faire pour ça? C'est dans les sens que l'amour baigne. C'est pas si grave si on part pas. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit. Par peur d'être compris, oh, oh, oh. Comme quasi gagné au loto, une tâche qui porte pas au savon, ni au compromis. Oh, oh. Si c'est facile de s'en parler, si c'est facile de répéter, si c'est facile. Si c'est facile, laissez aller. Pas besoin de t'en faire pour ça. C'est dans le sens que l'amour peigne. C'est pas si grave si tu pars pas. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit se plaindre.
Pas besoin de t'en faire pour ça. C'est dans le sens que l'homme nous peine. C'est pas trop grave si on part pas. On peut entendre la nuit se plaindre.
On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit.
Bonjour, ici Claude qui vous parle et Emma qui me met en onde, je la remercie. Alors, c'est l'émission À nous le futur et je voudrais vous dire qu'il y a une professeure de droit à l'Université de Sherbrooke qui s'appelle Geneviève Dufour qui va faire une conférence le samedi, le 25 février. Ça s'appelle « Privilégier les achats locaux, une bonne idée ». Point d'interrogation, elle va parler de ça. Si vous voulez l'écouter, là, c'est gratuit, vous allez à Eventbrite. Fait que moi, j'écouterai ça. Et puis, je voudrais aussi vous parler d'un très intéressant livre qui s'appelle « Redonner la santé à toute la famille ». C'est de la docteure Julie Saint-Pierre, avec une préface de Patrick Lagacé, de Régent Thomas. C'est l'approche du 180 contre l'obésité. L'obésité étant une maladie chronique et une épidémie assez invisible. Et tout comme l'épidémie générale des maladies chroniques, là, c'est une épidémie invisible. Et à la toute fin, elle dit que le rapport Castonguay, hein, c'est il y a 50 ans, là, en 1970, c'est le rapport Castonguay-Neveu. Il y avait 106 recommandations et elles n'ont pas toutes été appliquées et elle souhaite vraiment qu'elles soient appliquées. Puis elle regrette qu'il n'y ait pas assez de prévention dans le système de santé. Et elle félicite toutes les étudiants qui font partie de FRESCE, parce que ces étudiants en médecine s'occupent beaucoup de la prévention. Ils sont encore étudiants. J'espère qu'ils ne changeront pas d'idée lorsqu'ils vont commencer à travailler. Fait que le groupe, ça s'appelle Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec. Si vous allez voir dans leur site Internet, c'est très, très, très bien. Ils ont 3 ou 4 documents, dont un sur les changements climatiques. Et puis, ils ont 40 recommandations. C'est là que j'ai entendu parler du thème de l'éco-paralysie. Alors, ils ont un vocabulaire précis. Certains d'entre eux seront des chirurgiens. Je crois qu'ils vont réussir à se rendre au foie sans problème. Et on va aller dans une publicité. OK, nous sommes à Nous le futur et je vous donne un communiqué de presse que j'ai reçu ce matin. C'est le groupe ICAN. Ça, c'est la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Ils ont fait le TIAN, c'est le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui a été signé par beaucoup de monde, là, je ne sais pas par cœur, mais 90 pays, je crois. Alors, ils disent, la semaine où nous marquons un an depuis que la Russie a lancé son invasion brutale et à grande échelle de l'Ukraine, le directeur exécutif par intérim de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, Daniel Hogstad, a averti que le monde est confronté à un risque grave d'utilisation d'armes nucléaires pour la première fois depuis 1945. Entre parenthèses, j'aime bien donner des bonnes nouvelles. J'en ai donné 2 tout à l'heure, là. Mais il faut être réaliste. Il y a ça qui se passe, puis bon, il faut s'en occuper. La Russie a menacé à plusieurs reprises, ouvertement et de manière voilée, d'utiliser les armes nucléaires en Ukraine. Il existe un risque croissant de voir ces armes utilisées à la suite de cette guerre. Il est probable que la Russie fasse une erreur de calcul ou réponde à une menace perçue par Moscou. Plus la Russie décide de poursuivre son invasion et ses opérations militaires, plus il est probable que les armes nucléaires prennent une place importante dans ce conflit. C'est quelque chose que le monde devrait prendre très au sérieux. La suspension du nouveau START est dangereuse et imprudente. En réponse à l'annonce faite cette semaine par le président Poutine, selon laquelle Moscou suspend l'application du dernier traité de contrôle des armements conclu avec les États-Unis, le New START, M. Hogstad a déclaré que la décision du président Poutine de suspendre l'application pour la Russie du traité New START est dangereuse et imprudente et doit être largement condamnée. La raison pour laquelle le président Poutine a agi de la sorte est une question à laquelle lui seul peut répondre, mais elle souligne combien la soi-disant dissuasion nucléaire, loin d'assurer la sécurité, nous laisse en fait à la merci des décisions personnelles de dirigeants de pays dotés de l'arme nucléaire, comme Poutine. Il est toutefois important de se rappeler que les crises peuvent offrir des opportunités de percer. Après la crise des missiles de Cuba, les négociations internationales ont abouti à un traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, puis au traité de non-prolifération nucléaire. Des mesures concrètes en faveur du désarmement sont nécessaires dès maintenant. Madame Hogstad a ajouté, « Le fait qu'un pays doté de l'arme nucléaire, la Russie, ait utilisé la menace de ses armes nucléaires pour faciliter l'invasion de son voisin non nucléaire, souligne la nécessité cruciale d'un désarmement nucléaire complet. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires est le seul traité qui interdit toutes les activités nucléaires, y compris les menaces nucléaires. Et il recueille de plus en plus de soutien. Il compte désormais 92 signataires et 68 ratifications, soit le même nombre que le TNP. Ça, c'est le traité de non-prolifération. 2 ans après son entrée en vigueur, le TPNW, qui lui est le traité sur l'abolition des armes nucléaires, constitue le cadre du désarmement et le prochain sommet du G7 à Hiroshima offre l'occasion idéale de donner le coup d'envoi d'un nouvel élan vers l'élimination de ces armes. Les dirigeants du G7 qui dirigent des arsenaux nucléaires ou soutiennent l'utilisation des armes nucléaires doivent présenter un plan crédible sur la manière dont ils entendent faire progresser le désarmement nucléaire et amener les dirigeants des autres pays dotés d'armes nucléaires à la suite et à la table des négociations. C'était ça, c'est ça qui est ça. Mais vous savez qu'une bombe nucléaire, ça peut se défaire. Hein? Moi, j'étais content d'apprendre ça. Et puis, j'ai déjà parlé ici de Seymour Melman, un ingénieur industriel qui a fait un gros travail intellectuel sur la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles. Je pense que les seuls gagnants vraiment là, du conflictuel, c'est le complexe militaro-industriel international qui lui fait de l'argent en ce moment. Et vous savez, John Lennon, qui était membre des Beatles, avec Yoko Ono, il avait fait la chanson « Give Peace a Chance ». Je pense que nous devrions la réentendre assez souvent. Et puis, je suis d'avis que, voyez-vous, il y a eu des manifestations contre la guerre du Vietnam. Il y a, je ne sais pas moi, 1970 à peu près. Je pense que les gens qui ont manifesté, là, ceux qui sont encore là et en énergie, devraient reprendre la route, reprendre les rues et manifester contre la guerre de l'Ukraine pour notre bonheur et notre survie. Alors, je pense qu'il y a une musique qu'on pourrait entendre après, peut-être « People Please » de Gabriel Schonk, et je vous reviens pour terminer. Bonjour, de retour à Nous le futur. J'ai déjà interviewé Pierre Lepage, qui était auteur du livre, qui est l'auteur, Mythes et réalités sur les peuples autochtones. Et j'avais dit que, puisqu'il y a 10 chapitres, je parlerai pendant 10 émissions de chaque chapitre. Donc là, j'en suis au chapitre 1 qui s'appelle « Des mythes qui perdurent ». Ce document-là, « Mythes et réalités sur les peuples autochtones », regardez dans vos bibliothèques municipales. C'est l'Institut Tsakapesh qui a ça. Je crois que ça sera disponible parce que ça a été vendu, je crois, à 200 000 exemplaires. C'est vraiment un bon document. Alors, dans le chapitre « Des mythes qui perdurent », il y a le thème « Conquête et obligation d'assimilation ». Les Autochtones ont été obligés de s'assimiler après la victoire de l'Angleterre. Et puis, il y a eu la naissance d'une identité canadienne. C'était l'ancien mot pour l'identité québécoise. Et puis, nous sommes redevables, plus que nous le pensons, aux Premières Nations. Nous avons beaucoup d'emprunts. Par exemple, les emprunts culinaires, allant de l'eau d'érable à la courge, aux haricots, au maïs et même à la tomate, et à la connaissance des plantes médicinales. Voilà autant d'éléments sous-estimés. Et puis... Nous leur devons aussi la question de la démocratie. Ça, c'est un concept d'origine autochtone. Et puis, avant l'arrivée des Européens, les sociétés autochtones étaient des sociétés organisées qui possédaient un système politique et un système complexe d'échanges commerciaux. Je pense qu'ils étaient aussi populés, il y avait autant de population dans les trois Amériques là, qu'en Europe à ce moment-là. Alors... nous allons se quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ici Claude Saint-Jean. Nous allons entendre Short Winded de Lee Theaz, L. Theaz. Et je remercie beaucoup Emma qui a fait la mise en onde. Et je vous souhaite une bonne santé, une bonne semaine de relâche. Et on se réentend dans 2 semaines. Merci bien.